Alors, ce matin, je veux apporter un message. Et il y a deux semaines de ça, pour la fête des mères, on a parlé de Moïse qui s'est fait repêcher dans l'eau, que plusieurs femmes lui ont sauvé la peau. Et on a parlé de Moïse dans ce sens-là. Ensuite de ça, on a parlé de Moïse qui était dans un face-à-face, dans une rencontre cœur à cœur avec Dieu, dans une tente de la rencontre. Puis on a vu ensemble à quel point est-ce que notre corps, notre vie est faite pour avoir des cœur à cœur, des présences à présence avec Dieu. Et cette semaine, je veux parler encore de Moïse. Ça n'aurait pas été une série, ça n'a pas été annoncé comme ça, mais on va parler de Moïse, puis on va parler de baptême d'eau. Vous dites, ah ouais, Moïse s'est fait baptiser dans l'eau. Intéressant. On va voir ça ensemble. Et puis, ce sera finalement un conseil pour nos baptisés, un conseil aussi à nos futurs baptisés, mais surtout également à nos anciens baptisés, à ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Et puis, ce que je veux faire, c'est que la semaine dernière, j'ai parlé de certains événements de l'Exode, puis je sais que j'en ai peut-être mêlé quelques-uns parce que c'est allé vite. Fait que je vais vous faire un petit topo de l'Exode, puis ensuite, vous allez voir où est-ce qu'on s'en va. Comme on dit en bon québécois, vous allez voir où est-ce que je m'en vais avec mes skis. Tout le monde rêve de l'hiver présentement, n'est-ce pas? On se dit, tant qu'à ce qu'il fasse fret, autant qu'il y ait de la neige. Fret, pas de neige. En tout cas, j'irai pas là-dessus. J'espère que la joie du Seigneur est votre force, parce que c'est pas la température qui va vous le donner. C'est bon? Ah oui, hein, les chrétiens sont toujours joyeux, jamais affectés par la température. Tout le monde sait ça. Non, non. Alors, je vous raconte l'histoire de l'Exode rapidement. Ça commence par la naissance d'un petit bébé qui s'appelle Moïse, et puis que le pharaon voulait éliminer tous les jeunes garçons. Finalement, il est condamné à mort, racheté et finalement sauvé par la fille du pharaon. Et puis, le petit Moïse devient grand, finit par apprendre que c'est un Hébreu et c'est pas un Égyptien. Il connaît son identité et finalement, il va essayer de libérer à sa façon son peuple, mais il va tuer un Égyptien. Ça va se savoir, il a peur de mourir, il s'en va dans le désert. Ça va? 40 ans. Il s'en va dans le désert et puis là, à travers un buisson qui est en feu, mais qui se consume pas, Dieu parle à travers ce moment-là pour dire à Moïse, il y a un appel sur ta vie, j'ai entendu les cris de tout un peuple qui souffre, je veux que tu fasses quelque chose. 40 ans se passent. Et puis arrive le bon moment où est-ce que Moïse est envoyé comme un messager pour dire à Pharaon, le plus grand roi de cette époque-là, l'Égypte était le royaume le plus puissant, ça c'était avant la Grèce, avant Rome. Et puis, il l'envoie, et Moïse, à travers son background, il a été élevé dans le palais de Pharaon, et il se présente devant le Pharaon en disant, « Faut que tu libères mon peuple. Faut que tu libères les Israélites. » Petite guillemets, il y a 2 millions d'Israélites dans le pays, et ils sont des esclaves. Fait que la demande de Moïse, c'est, « Libère 2 millions de mes employés, maintenant, s'il vous plaît. » Alors, qu'est-ce qu'il dit, vous pensez? Il n'y en a pas question. Vous partirez pas d'ici. Alors, ce qui se passe, c'est que Moïse va visiter régulièrement Pharaon avec toujours la même question. « Hey, libère mon peuple, libère-les, délivre-les d'Égypte. » Et à toutes les fois que Pharaon dit non, ben il y a une plaie, il y a une espèce de malédiction qui repose sur le peuple. Et comme je l'ai dit la semaine dernière, chacune de ces malédictions-là était une attaque directe à un dieu égyptien. C'est-à-dire qu'il y avait toutes sortes de formes animales, et puis il y avait un dieu pour tout et n'importe quoi. Et puis finalement, chacune de ces plaies-là continue à augmenter en intensité. Il y a de la grêle, il y a des grenouilles qui envahissent le pays, il y a des sauterelles qui mangent toutes les récoltes, l'eau se transforme en sang, il y a noirceur sur le pays. Et malgré tout ça, tous ces malheurs-là qui atteignaient uniquement les Égyptiens et tous les Israélites en étaient épargnés, Pharaon dit quoi? Il n'y en est pas question. Jusqu'au moment où est-ce que la dernière plaie va être celle de faire mourir tous les premiers-nés égyptiens. Et là, quand ça arrive, le pharaon fait comme, OK, on va le dire en québécois, enough is enough, c'est assez, là, c'est assez. Fait qu'il dit, OK, vous pouvez y aller. Et puis, ce qui va se passer, c'est que Pharaon accepte que ces 2 millions d'Israélites, imaginez le convoi, okay, sortent de l'Égypte. Et puis, après être partis, ils sont en route. Puis tout d'un coup, il y a comme une idée spontanée qui vient au pharaon. C'est comme, « Hey, je viens-tu de perdre 2 millions d'employés, moi, là? Là? Y a-tu quelque chose qui va pas avec ma tête? Y a-tu quelque chose qui marche pas? Hey, on va les rattraper. » Donc là, ce qu'il fait, c'est qu'avec l'armée la plus puissante, il arme ses chars et puis finalement, ils se mettent à la poursuite. Et on va lire quelques versets qui vont faire un petit peu le topo de la situation. Alors, dans Exode 14, ça va dire « On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors, les dispositions de cœur du pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, « Qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. » Ah, l'utilitarisme, c'est pas nouveau, hein? Et le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Il prit 600 chars d'élite ainsi que tous les chars de l'Égypte, chacun avec ses combattants. L'Éternel endurcit le cœur du pharaon, roi d'Égypte, et le pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Dans le sens qu'ils n'avaient pas pris la poudre d'escampette, ils étaient partis avec l'accord du pharaon. Et là, ils changent d'idée. Et là, imaginons qu'on est 2 millions ensemble, puis tout d'un coup, on apprend qu'il y a une gang armée jusqu'aux dents qui nous poursuit. Il se pourrait qu'il y ait une certaine inquiétude qui soit soulevée dans nos cœurs. Alors, Moïse va s'adresser au peuple en disant la chose suivante au verset 13 et 14. Moïse va répondre, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Double épreuve, ne pas s'inquiéter et se taire. Vous avez vu des gens qui ne s'inquiètent pas, mais qui chialent tout le temps? Ah, double défi. C'était pas juste le défi de faire confiance, c'était l'idée de zip. Il y a des fois, il y a des personnes que c'est un plus grand défi que d'autres. Un ou l'autre, hein? Et puis là, ce qui se passe, c'est que le peuple est à côté, ou est finalement, est contraint devant une mer, la mer Rouge. Et comprenez que si eux, ils avancent, les chars, ça avance aussi rapidement, hein? Plus que 2 millions de personnes. Puis là, quand on dit 2 millions, c'est pas 2 millions de sprinteurs en kit de sport, là, hein? C'est 2 millions de personnes qui amènent leurs tentes, leurs biens, les enfants, les petits, les moyens puis les grands, qui amènent le bétail, leurs troupeaux. C'est tout qu'un convoi, là. C'est pas une petite affaire. C'est pas 10 personnes qui disent, hey, on va partir d'Égypte, ça va être amusant. C'est 2 millions full equip, avec stock inclus. Et là, ils sont devant la mer. Et ils se disent, on est cuit. On est entre l'armée puis un blocage solide. Un solide blocage, on ne peut plus avancer. Qu'est-ce qui va se passer avec nous? C'est là que Moïse va dire, gardez silence, faites confiance. L'Éternel va combattre pour vous. Il y a des choses comme ça dans la vie, hein, qu'on connaît intellectuellement, mais quand on est coincé entre la mer puis l'armée, il y a des choses qu'on comprend peut-être moins vite à ce moment-là. C'est comme si l'intellect puis le cœur ne suivent pas. Pas juste moi là-dedans? Tout un défi. Alors, voici ce qui se passe au verset 21 à 23. Moïse, puis là, ça, c'est l'instruction de Dieu, tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha le vent, assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Toute une aventure encore une fois. Et là, fast forward, peut-être que ça n'a pas pris 5 minutes de traverser tout ça, ça a pris du temps. Mais voici au verset 26, juste 3 versets plus tard, voici la fin de l'histoire. Alors l'Éternel dit à Moïse, quand tout le monde est parti, quand tout le monde des Israélites est sorti de la mer, l'Éternel dit à Moïse, tends la main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Imaginez, vous luttez contre l'armée la plus puissante de l'époque avec absolument aucune arme. Et ces gens-là vous poursuivent et finalement, vous n'avez aucun moyen de vous défendre sinon de faire confiance à Dieu. Et voici ce qui se passe. Il y a quelque chose de assez surnaturel dans tout ça. Ça va pour ça, cet épisode-là? Il est important, cet épisode-là, dans le reste du message. C'est pour ça que je l'approfondis un petit peu plus. Mais là, une fois que la mer est complètement revenue, que les Égyptiens ils flottent sur l'eau ou ils calent dans le fond, on ne sait pas trop, qu'est-ce qui se passe avec le peuple? Ils se ramassent de l'autre bord, puis ils se ramassent dans un désert. Et tout d'un coup, ils manquent d'eau. Ils manquent de bouffe. Alors, ils se mettent à se plaindre de dire « Hey, on aurait été mieux en Égypte, au moins on aurait eu de l'eau là-bas. Hey, on aurait été mieux en Égypte, on aurait eu des cocombes puis des melons. On aurait eu de la viande ou on aurait eu telle chose ou telle chose. » Et là, ils se mettent à se plaindre. Et puis, quand ils se plaignent pour l'eau, il y a Moïse qui est là et suite à un geste que Dieu lui demande de faire, il y a de l'eau vive qui sort d'un rocher et il s'abreuve à ce rocher-là. Alors qu'ils se plaignent sur la nourriture, finalement, il y a de la manne, qui est comme un genre de petit pain qui était supposé goûter le miel. On ne sait pas trop, un petit soupçon de miel avec lequel ils pouvaient faire des gâteaux, des galettes. Et puis, à chaque matin, cette manne-là se retrouvait sur le sol et il y en avait juste la quantité exacte pour tout le peuple. Là, vous êtes « Wow! » On se plaint parce qu'on n'a pas d'eau. On reçoit de l'eau qui sort d'un rocher comme ça. On se plaint qu'on a, qu'est-ce qu'on va manger? Il y a de la manne, il y a de la nourriture qui apparaît à chaque matin sur le sol. Dieu pourvoit. Et là, ensuite, on continue l'histoire. Et après ça, là, Moïse est appelé à la montagne pour recevoir les 10 commandements et toutes sortes d'autres choses. On l'a vu la semaine dernière, pendant qu'il est sur la montagne, il se crée un veau en or pour adorer le veau en or, pour avoir une image visible de ce Dieu-là qui les avait fait sortir de la mer Rouge. Et puis, bref, avec toutes les conséquences que ça amène. Et puis, après ça, ils vont envoyer des espions pour aller visiter cette espèce de terre promise que Dieu leur avait promis, finalement, là, on appelle la terre promise, le Canaan. Et puis là, il va y avoir 12 espions qui y vont. Il y en a deux qui disent « Hey, les gars de l'autre bord sont vraiment grands, sont vraiment gros, mais si Dieu est avec nous autres, hey, on a toujours bien battu les Égyptiens. Là. Qu'est-ce qu'il va, tu sais, on va s'emparer du pays, puis si Dieu est avec nous autres, il n'y a personne qui va pouvoir nous empêcher. » Mais il y en a 10 autres qui, eux autres, disent « Hey, les gars, ils ont vu la même histoire, ils ont vu la même scène, ils ont vu les mêmes gens. » Puis eux autres, ils disent « Hey, ces gens-là sont vraiment trop grands, sont vraiment trop gros, ils ont de la barbe, ils font peur, ils bavent. » Non, j'exagère. Mais ils sont vraiment, c'est trop puissant, les murailles sont trop hautes, les obstacles sont trop grands, on ne sera jamais capable d'y aller. Et là, le peuple entend ces deux témoignages-là et malheureusement choisissent le témoignage de ceux qui avaient peur et non pas de ceux qui faisaient confiance à Dieu. Alors, la conséquence, c'est de dire, « Ah, ben, regardez maintenant, vous... » Cette génération-là qui n'a pas cru, elle va rester dans le désert. Elle va tourner en rond pendant 40 ans dans le désert. Et ce sera les deux espions, Josué et Caleb, qui vont justement entrer dans le pays promis, l'autre génération d'ensuite. Et pendant tout ce moment-là qu'ils sont dans le désert, il y a une nuée qui représente la présence de Dieu. Une nuée qui les dirige. Quand il faut qu'ils partent, la nuée se dirige et se déplace pour qu'ils se déplacent. La nuée, cette nuée-là, était comme une lumière qui les éclairait. Et ça, c'est l'histoire de l'Exode et des Nombres en pas longtemps. Si vous lisez le livre au complet, ça va vous prendre plus de temps que ça. Mais ce qu'on peut voir dans cette histoire-là, très, très simplement, c'est qu'on ne voit pas ça tous les jours, une mer qui s'ouvre, une mer qui se referme. On ne voit pas ça tous les jours, des plaies, des choses, de l'eau qui sort d'un rocher ou de la manne qui est sur le sol. Et il y a quelque chose dans le livre de l'Exode, c'est spectaculaire, c'est surnaturel. Il y a des choses qui se passent là qui ne se passent plus ailleurs. Il y a quelque chose de vraiment surprenant dans tous ces miracles-là. Et je dirais même aussi surprenant que tous les miracles effectués par Jésus dans son séjour sur terre. Hein, on a vu la semaine dernière que Moïse est comme un type de Jésus. Leurs histoires sont liées par toutes sortes d'événements. Jésus est le prophète par excellence du Nouveau Testament, alors que Moïse était le prophète par excellence de l'Ancien. Et lorsqu'on regarde ça, peut-être avec un autre œil, si on regarde l'histoire de l'Exode, on y voit le chemin du salut, du salut pour chacun de nous. Parce que chacun de nous, à quelque part, et on l'a entendu dans les témoignages, On était à un endroit où est-ce qu'on était perdu, où est-ce qu'on était tout croche, où est-ce que ça marchait pas les choses. Et puis tout d'un coup, il y a une rencontre avec Dieu qui est surprenante, qui arrive un peu de nulle part. Une rencontre qui nous fait « Hey, il y a quelque chose qui est là, il y a quelque chose de concret devant nous. » Et dans l'histoire, c'est Moïse avec le buisson, cette rencontre-là surprenante. Et finalement, on voit « Hey, il y a peut-être un Dieu qui existe, il y a peut-être quelque chose qui est là. » On expérimente ça, puis ça nous pousse à prier. Et on l'a entendu des témoignages. J'ai fait une prière parce que ça marchait pas, puis je me suis dit « Hey, si Dieu est là, il y a quelque chose qui va se passer. » Et la prière est entendue et Dieu fait des œuvres surprenantes, fait des choses miraculeuses dans nos vies. Il libère nos cœurs. Il va même nous donner des nouvelles instructions. Comme Moïse a reçu des instructions, il nous conduit à lui. Et puis, non seulement ça, on devient son peuple, on devient son enfant. Puis ça aussi, on l'a entendu dans les témoignages de baptême. Et ce chemin de l'Exode-là est finalement un chemin que chacun d'entre nous, on emprunte. Et on en vient à la fin de dire, « Hey, wow, c'est le Seigneur qui a fait cette grande œuvre-là dans nos vies. » Et quand on se fait baptiser, c'est un peu cette reconnaissance-là qu'on a passé à travers tout un processus, mais on arrive à la fin avec cette conviction-là que, « je suis l'enfant de Dieu. Christ m'a appelé à lui. Christ m'a conduit dans le désert. Christ m'a appelé à me détourner de mes anciennes voies, à le suivre. Christ a libéré mon âme. » Et maintenant, je veux le suivre jusqu'à ce que la mort nous réunisse. Amen. Et là, vous dites, ouais, OK, je comprends, Jean-Fred, mais quel est le lien du baptême? Et l'apôtre Paul, dans Corinthiens, dans la lettre aux Corinthiens, va parler de baptême et il va parler de l'Exode d'Israël. Il va faire un lien entre il va faire un lien entre les deux. Et il y a un commentateur qui le dit bien, Gardner, qui va dire, Paul ici ne va pas redéfinir ce qu'est le baptême d'eau, mais il s'adresse aux Corinthiens qui sont orgueilleux. Et si vous avez lu la première lettre aux Corinthiens, vous notez immédiatement tous les désordres qui s'y passent. Il y a des choses qui n'ont pas d'allure qui se passent dans cette église-là. Et l'orgueil alimente tout ça. Et cet orgueil-là provoque même des divisions, des choses qui même ne sont pas nommables. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est comme si les Corinthiens ont l'impression que parce qu'ils sont baptisés, parce qu'eux autres prennent la Sainte-Seine, qu'eux autres sont un peu au-dessus de la mêlée, qu'eux autres sont bien meilleurs que même leurs ancêtres, ceux qui ont vu les miracles puis qui ont chialé quand même. Et c'est comme s'ils se placent un petit peu en haut de la mêlée, c'est un peu ce que l'orgueil est en termes de définition. Hein, cette idée-là, ben regarde, moi j'ai pas besoin, moi je suis capable. Ça va? Et puis, c'est comme s'ils s'adressent à eux. Et dans le contexte du chapitre qu'on va lire, vous allez pouvoir le remarquer aussi. Alors, voici ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, versets 1 à 6. Ça va dire, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. » Ça parle de l'Exode, la nuée dans le désert. « Et qu'ils ont tous passé à travers la mer. » On l'a lu tantôt. « Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. » Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. On parle de la manne ici, hein, le lien. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux, ils en ont eu. » Alors, il y a comme, l'apôtre Paul va vraiment donner son intention ici. Très clairement, il va dire, « Hey, prenez-les comme exemple, ce peuple-là qui est passé dans l'Exode, prenez-les comme exemple pour ne pas faire les mêmes niaiseries qu'eux ont fait, pour ne pas faire les mêmes erreurs qu'eux ont accomplies à travers leur processus, leur chemin avec Dieu. » Et sous-entendu que si l'apôtre Paul leur demande de ne pas tomber dans les mêmes pièges, c'est qu'il est en train de reconnaître que ce peuple-là a vécu un peu les mêmes bénédictions. Les Corinthiens ont été richement bénis par Dieu, tout comme les gens de l'Exode l'ont été. Comprenez que ça va des deux côtés. Et il va dire, « Hey, même ces ancêtres-là, ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. » Il y a tellement de liens entre l'Exode et le baptême d'eau. Premier lien que je veux faire, puis je veux inspirer justement nos baptisés, puis chaque personne qui est ici, de voir que finalement, on est conduit par Dieu vers une destination meilleure. Quand Dieu les appelle, il les appelle pas juste hors d'Égypte en disant « Vous allez partir d'Égypte ». Il les appelle à être dans un pays là où coule le lait et le miel. Il y a une destination, puis Dieu est très clair en disant « Ce pays-là, vous voulez y être. Vous voulez y être. » Même si à cette époque-là, l'Égypte était vue comme l'opulence, la place où être. On dit « Non, je vous envoie vers une destination meilleure. » Il lui promet d'aller dans un pays promis où coule le lait et le miel, et ils vont y aller sous Josué. Et lorsqu'on devient chrétien, lorsqu'on est baptisé, qu'est-ce qui se passe? On a cette conviction-là que Dieu nous conduit vers une destination parfaite, là où il n'y aura ni deuil, ni mort, ni tristesse, ni péché, cette éternité avec Christ. Et de la même façon que Dieu, quand il nous appelle à être chrétien, il nous appelle pas juste à dire « Hey, maintenant, t'as un tag, t'es chrétien. » Non, il nous appelle vers une destination tellement meilleure. On est en camping avec des mouches puis de la pluie ici sur Terre. Vraiment. Non, mais reconnaissons que notre monde n'est pas parfait et plein de souffrances. On est en camping ici, mais on sait qu'un jour, on retourne à la maison. Puis la maison, c'est l'endroit où est-ce que Dieu nous construit une place, là où est-ce que tout ce qui est mal et épouvantable de notre monde n'y sera plus. Alors le baptême, c'est cette déclaration-là que non seulement je change de direction, et moment. Mon fil a pogné en arrière. Hey, beau fond d'écran, hein, Marianne. Je le laisse ici, OK? Bon, ça m'apprendrait à gesticuler, moi. Je disais quoi, là? Il y a une destination bien meilleure qu'être sur un stage puis qu'il y ait des stocks qui nous tombent sur la tête. J'espère qu'il y aura des bloopers au ciel. Tu sais, des reprises vidéo. Avez-vous déjà prié ça? J'aimerais ça revoir cette reprise vidéo-là. Puis là, il y a Pierre aux archives. Hey, OK, on sort la cassette VHS 1998. Voilà. Peut-être, on ne sait pas. Dieu nous conduit, le baptême d'eau est une déclaration qu'on n'est pas juste ici pour être ici, mais qu'il nous conduit vers une destination meilleure. Deuxième chose que je veux faire comme lien avec l'Exode, là vous vous demandez est-ce qu'il va perdre le fil ou pas. Il est assez concentré pour ça? Je n'ai pas perdu le fil, inquiétez-vous pas. L'autre chose qu'on peut remarquer à travers tout cet épisode-là, le baptême de Moïse et le baptême aujourd'hui, c'est que ce n'est pas par nos forces. J'aimerais dire qu'on n'est pas le centre de l'histoire. On n'est pas le centre de l'histoire. Et pourquoi je dis ça? C'est parce que quand on regarde l'histoire d'Exode, c'est impossible pour 2 millions de personnes de traverser une mer avec tout ce qu'ils avaient besoin d'amener. C'était impossible de vaincre l'armée la plus puissante de l'époque. Sans l'intervention de Dieu, c'était tout simplement impossible. Et de la même façon, devenir chrétien... Donner sa vie à Christ, c'est d'arriver au point où on reconnaît qu'on ne peut pas se sauver par nous-mêmes. Il n'y a aucun mérite, que ce soit nos actions, nos efforts, il n'y a rien qui peut nous donner le mérite de pouvoir dire « Hey, moi je suis chrétien ». Il n'y a pas d'œuvre, il n'y a rien. On ne peut pas par nos propres forces, sans l'intervention de Dieu, c'est impossible. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus va dire « Ce qui est impossible à l'homme... » est possible à Dieu. On prend ce verset-là des fois en disant « Ah, ce qui est impossible à l'homme, ah, on ne peut pas guérir les hommes, fait que Dieu, le Dieu de l'impossible va le faire. » Et c'est vrai, mais pas avec ce passage-là. Ce passage-là parle vraiment de la nouvelle naissance. Ce qui est impossible à l'homme, c'est-à-dire de renaître de lui-même, de s'attacher à Christ par lui-même, c'est impossible. Mais ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. Et c'est ça l'Évangile. Et il y a cette idée-là que, justement, on voit que c'est pas par les forces. Faut comprendre l'Évangile. Ta vie n'est pas le centre de l'histoire. Dieu est le centre de l'histoire. Ton histoire, ta prière avec Dieu n'est pas le centre de l'histoire. Christ qui agit dans ta vie est le centre de l'histoire. Amen. Alors, on voit un peu, c'est un peu la même chose que le salut, hein? Et finalement, quand on rentre dans le bassin, c'est pas de dire « Hey, moi, je suis super bon, j'ai fait une prière. J'ai fait tellement ma prière sincère que Dieu avait pas le choix de répondre. Alors, je veux me faire baptiser parce que moi puis Dieu, il m'écoute. » Vraiment pas. On est tous ici en disant « Regarde, c'est à cause de Jésus qu'on est là. Si l'anxiété est partie, c'est parce que Dieu y a répondu. Puis si je veux donner ma vie à Dieu, c'est parce qu'il est venu me repêcher, parce que franchement, je ne le méritais pas. Alors, tous nos baptisés, je sais qu'on le dit, on le redit, mais je veux le redire encore, Christ est le centre de l'histoire. Et une des choses qui m'a béni le plus comme lien entre l'Exode et le baptême, c'est à quel point la vie en Christ est un changement d'allégeance. Un changement d'allégeance. Comprenez que le peuple d'Israël, en Égypte, il était des esclaves. Et un esclave, vous savez, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est sous la possession de quelqu'un d'autre. Il lui appartient. Et le peuple d'Israël appartenait littéralement aux Égyptiens. Alors, lorsque Dieu fait traverser Israël de la mer, c'est génial. Lorsqu'il met les Égyptiens dans le même chemin puis que finalement ils meurent tous, oui, merci Seigneur, mon ennemi n'est plus là. Mais il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui se passe là. Puis là, profond, ce n'est pas la profondeur de la mer. Profondeur de l'œuvre de Dieu, c'est qu'il y a littéralement un changement de possession. C'est que le peuple appartenait aux Égyptiens et Dieu va dire, non, maintenant vous êtes mon peuple. Il y a un changement d'allégeance, il y a un changement d'appartenance. Et savez-vous quoi? Vous voyez le lien directement avec la vie chrétienne. Avant de connaître Christ, on était attaché au mal, on était attaché à l'ennemi de nos âmes. Même si on essayait de faire le bien, on n'était pas capable, on prenait des choix tout croche. Certains plus tout croche que d'autres. On était attaché justement, pas à Dieu. Et quand on est dans le bassin, puis qu'on décide de se faire baptiser, puis qu'on dit « Hey, moi, je veux suivre Jésus », c'est pas juste de dire « Hey, c'est le fun, il y a une nouvelle affaire ». Non, on change d'équipe. On arrête de prendre pour les Maple Leafs, puis on prend pour les Canadiens. On change complètement d'allégeance. J'aurais pu dire les Browns aussi. Ah. Je pense à quelqu'un près de moi, là. Mais tout ça pour dire que il y a un changement d'appartenance complet. Et ça, c'est la chose la plus merveilleuse qu'on puisse vivre de ce côté-ci de l'éternité. Changer complètement d'équipe. C'est non seulement être libéré du mal, mais c'est d'être sous la supervision, sur la seigneurie, sur le royaume de celui qui est notre rocher solide, comme on l'a chanté tout à l'heure. C'est un changement d'allégeance complet. On est maintenant sous le royaume de Dieu, sous l'autorité de Dieu. Et l'autre chose que je veux vous partager, là, vous dites, ouais, un changement d'allégeance, ouais, ouais. Peut-être que votre nouvelle naissance est un peu trop loin, chers amis. Vous vous rappelez plus c'est quoi de ne pas avoir la paix de Dieu dans votre cœur? Vous ne rappelez plus c'est quoi d'être dans l'autre équipe. Puis des fois, il faut se le rappeler. Il faut se rappeler de comment qu'on vivait notre vie avant de connaître Jésus. Qu'est-ce qui se passait dans notre cœur avant de connaître Jésus? Puis peut-être que lorsqu'on s'en rappelle, on dit, « Eh, mais c'est vrai que ça ne volait pas haut, hein? » Puis, ouf, l'anxiété dans le piton tout le temps. Ou la crainte, ou... Puis je dis pas qu'il n'y a pas d'anxiété ou qu'il n'y a pas de crainte quand on est chrétien. C'est pas ce que je dis. Mais il y a une différence entre avoir une allégeance pour le mal versus une allégeance pour Dieu. Et une des choses que je veux, puis ça, pour les nouveaux baptisés, je veux vous le dire, mais pour tous les autres également, le baptême n'est pas un antidote aux difficultés et aux tentations. Les Israélites ont vu des miracles par-dessus miracles, par-dessus miracles, par-dessus miracles. L'eau qui rouvre, le peuple qui marche, les plaies d'Égypte, l'eau par un rocher, la manne qui apparaît, et bien plus. Et pourtant, ils sont tombés dans plusieurs pièges. Ils sont sortis de leur baptême. Leur baptême étant le symbole de eux qui traversent les deux murailles d'eau, une à côté de l'autre. Ils traversent, et la première chose qui arrive de l'autre bord, vous savez c'est quoi? Ils se réjouissent. La deuxième chose qui se passe, ils chialent. Ils ont peur de mourir. Ah non, on va mourir de soif, on aurait aimé mieux être en Égypte. Et là, tu fais comme? Là, c'est parce que si le Dieu qui a ouvert la mer, qui a séché le plancher, qui t'a fait marcher, qui l'a remis en place juste au bon moment, puis que c'était tes ennemis qui, par hasard, étaient là, est-ce qu'ils seraient capables de faire quelque chose? Bien, nous, on regarde le texte, puis c'est facile, hein? Nous, on connaît la suite de l'histoire. Mais quand tu es sur le bord de mourir de soif, comment qu'on réagit? Hein? Alors, eux, ils sortent de leur baptême et tout de suite, il arrive des difficultés. Et on va lire le chapitre que je vous ai lu tout à l'heure dans 1 Corinthiens 10, puis on va aller plus loin. On va voir ce qui s'est passé. Alors, on va même relire les premiers versets. On va dire, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. » 5 premiers versets, c'est à quel point ils ont vécu tous les miracles incroyables de l'Exode. Verset 5, « Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Verset 8, « Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. » Verset 10, « Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. » Verset 11, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, et ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » Verset 12, highlight, mets ça dans ta Bible, surligne-le, triple surligne-le. « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Et là, tu dis, comment est-ce qu'un peuple qui a vu tout ça est capable de faire tout ça? Comment un peuple qui a vu tout ça est capable de tomber dans tous ces pièges-là? J'aimerais vous dire que le baptême n'est pas un antidote aux difficultés, aux tentations. Ce n'est pas une bulle de protection. Puis peut-être que certains ici, vous êtes en visite, puis vous dites, ben là, c'est de même. Ça sert à quoi d'être chrétien? Pourquoi qu'on est chrétien? C'est pas supposé être une... Tu sais, je veux dire, si Jésus est avec nous, il me semble qu'il n'y a rien de mal qui devrait nous arriver. Et la réalité, c'est pas ça, hein? En fait, l'avantage d'être chrétien, c'est pas qu'il ne nous arrivera pas de difficultés, il va nous en arriver. Il va nous en arriver, puis savez-vous quoi? Il va nous en arriver autant que ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Parce que notre monde est un monde de pécheurs, puis on vit la conséquence du péché, souvent des autres et de nous-mêmes. Mais c'est que dorénavant, vous ne serez jamais seul. Jamais. Jamais seul pour affronter tout ça. Dieu combattra pour vous. Il sera là à chaque moment. Et vous serez même en mesure de vivre une paix, même au travers des difficultés. Et ça, je vous le dis, que vous soyez chrétien ou pas, je prie que vos oreilles soient ouvertes pour entendre ça. La différence entre un chrétien et un non-chrétien, ce n'est pas le nombre d'épreuves qu'il va vivre. C'est la paix qui va être là pendant ces difficultés. Ça, ça fait toute la différence. Nous ne sommes pas seuls. Au contraire, le Dieu qui a ouvert la mer est le même Dieu qui vous y accompagne. Et moi, je crois que de la même façon que les Israélites passent à travers, Dieu passe avec eux autres, là. La présence de Dieu était dans l'épreuve, était là avec eux. Exode 14, on l'a lu tout à l'heure, Moïse répondit au peuple, « N'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, gardez le silence. » Là, vous dites, « Ouais, mais il ne faut pas prier. » Oui, oui, tu peux prier. Mais garder le silence, ça ne veut pas dire se taire pour l'éternité. Garder le silence, si, qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Genre, ne pas murmurer. Il y a des fois, on dit à Dieu, puis c'est correct de s'exprimer à Dieu, puis de dire, hey, « Regarde, Seigneur, je suis tanné de ça. » Mais il y a une différence entre faire ça, puis dire, « Seigneur, tu n'es jamais là pour moi. » Garder le silence, tant qu'à ça. Vous comprenez la différence entre les deux? Oui? Puis c'est pas méchant, mais on a tous cette tendance-là. Hein? C'est comme on est là, puis on se dit, ça débloquera jamais, qu'est-ce qui va se passer? Alors, le baptême, c'est un changement d'allégeance. C'est justement cette conviction-là que, avant, lorsqu'on était dans l'eau, plongé dans l'eau, dans notre ancienne vie, on était tout seul à faire face à tous nos problèmes. Puis savez-vous quoi? À toutes les fois, ça dégénérait, ça allait pas mieux. Et lorsqu'on refait surface dans cette vie nouvelle-là, on sait que Dieu est avec nous, même dans les situations les plus improbables, les plus tough, les plus... Qu'est-ce qui va se passer? Et moi, je veux donner quelques petits conseils à nos baptisés, puis peut-être à nos futurs baptisés aussi. Qu'est-ce que je peux faire pour être un de ceux qui prend garde de ne pas tomber, qui ne prend pas pour acquis comme les Corinthiens que parce qu'ils prennent la communion ou parce qu'ils ont été baptisés, eux autres, ils marchent sur les nuages. Pas d'épreuve, pas de tentation, mais au final, tu regardes la lettre aux Corinthiens, puis ils l'ont échappé souvent. Là. Ils l'ont vraiment échappé. La première chose, puis je veux utiliser la même image que Paul va faire. Au verset 3, ça va dire « Ils ont mangé la même nourriture spirituelle. » Et là, il y a tout un parallèle, OK? Il y a des images ici, OK? De la même façon que le peuple a mangé cette manne-là, cette nourriture divine, on est tous appelés, nous également, à se nourrir de ce que Dieu nous donne. Et moi, je veux encourager chaque croyant, chaque baptisé et chaque futur baptisé à ne pas hésiter à se nourrir de la parole de Dieu, à la lire la parole. C'est une manne encore plus riche que ce que les Israélites ont reçu. Une nourriture spirituelle qui fait du bien à l'âme. Je veux vous encourager de faire ça. Hein? Justement, dans Matthieu, ça va parler, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On connaît ce passage-là, des fois on le chante à travers certains chants. Manger cette même nourriture spirituelle-là. Mais aussi, ça veut dire qu'ils ont tous bu la même boisson spirituelle, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à ce moment-ci. Eux ont bu vraiment l'eau du rocher, mais l'apôtre Paul est en train de dire, cette eau-là, ce n'était pas juste une eau d'une nappe phréatique quelconque, c'était vraiment Christ qui les accompagnait et qui leur donnait cette eau qui allait faire en sorte que non seulement ils allaient boire, mais ils n'allaient pas mourir. C'était une question de vie ou de mort, là. C'était pas juste une question, j'aimerais plus d'eau fraîche. Vous comprenez que, tu sais, nous, là, on a ça dans une bouteille, là, on peut acheter ça, là, au dépanneur à côté, on en a de caché chez nous, c'est facilement accessible. Mais le jour où ce que ça fait 2 jours que vous n'avez pas bu puis que vous avez traversé la mer, là, ça, vous seriez prêt à payer peut-être un petit 10 000 $ pour l'avoir, là. Et c'est là que, l'apôtre Paul va dire, hey, cette eau-là qu'ils ont reçue, c'était une eau spirituelle. Et à quelle bien plus forte raison, dans nos vies, on a besoin de s'abreuver de la présence de Dieu, de s'abreuver de cette eau vive qui vient du Saint-Esprit. Hein? Jésus, je cite un passage un peu comme ça, là, mais il va à une fête puis il va dire, hey, que celui qui a soif vienne à moi et qu'il boive. Bonne idée. S'abreuver à travers le Saint-Esprit, cette relation vivante avec lui. On va dire aussi que, dans le même passage de Corinthiens, nos ancêtres ont été tous sous la nuée. Et la nuée, je vous l'ai dit, ça représente la présence de Dieu, ça représente la direction de Dieu. Et moi, je vais encourager chacun des baptisés à ne jamais négliger de demander la direction de Dieu pour leur vie. Oui, le Seigneur, à travers le baptême, on change d'allégeance, on change de trajectoire. Plutôt qu'être en route vers nulle part, on devient en route vers cette terre promise-là qui est l'éternité. Mais à travers la route, il y aura toutes sortes de décisions vraiment importantes et on a besoin de demander à Dieu, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est la présence de Dieu? Est-ce que c'est la parole de Dieu qui dirige tes actions, tes décisions? Et le dernier, c'est qu'ils ont tous passé à travers la mer. Et là, je veux qu'on fasse un petit peu de, pas de visualisation, mais un petit peu de se mettre dans la peau de ces 2 millions de personnes-là qui rentrent dans cette mer qui est ouverte. Là, vous dites, ouais, mais là, la mer, le vent a soufflé, ça devait être terrifiant. Pour qu'un vent soit capable d'assécher une mer, ça ne devait pas être un petit vent de rivage. Hein? Ça devait être tout un vent. Mais imaginez-vous que la mer s'ouvre et puis là, vous faites, hey, c'est sec. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On dit, OK, ben là, Seigneur, tu nous conduis, fait qu'on va avancer. T'avances. Mais est-ce que tu sais que les questions ne sont pas terminées? Nous, on connaît la fin de l'histoire, pas eux. Ils sont là. Ça va-tu me tomber dessus? My goodness, c'est haut. Et là, continue un autre pas. Il y a une autre question qui suscite. Là, si c'est sec pour moi, ça va être sec pour les Égyptiens? Ça donne quoi de se faire tuer en plein milieu de l'eau, à sec? Si les Égyptiens nous butent toute la gang? La délivrance n'est pas encore là, même si la mer s'ouvre, même si le chemin s'ouvre devant toi, la délivrance n'est pas encore là. Alors on avance, puis on se dit, qu'est-ce qui va se passer? Hey. Puis là, est-ce que les Israélites, ils se pensent, ah, ben c'est sûr que Moïse va étendre la main, puis l'eau va revenir, tout le monde va mourir, ça va être parfait. Non, ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils ne savent pas pantoute. Et souvent dans nos vies, c'est comme ça aussi. On voit que Dieu est en train de tracer un chemin, mais on est comme, c'est-tu le bon chemin? Est-ce que je vais me planter si je vais là? Est-ce que l'eau va me retomber dessus? Est-ce que mes ennemis vont être capables de me suivre à l'endroit où est-ce que Dieu me conduit? Il y a toute cette incertitude-là. Et quand je disais tout à l'heure, la plus grande paix, la plus grande joie, le plus grand privilège de chaque croyant, c'est de savoir qu'on n'est jamais seul. On n'est jamais seul. Ils sont tous passés à travers la mer et ils ont tous eu besoin de persévérer même s'ils ne savaient pas c'était quoi la fin. Et savez-vous quoi? Pour être de ceux qui continuent la course jusqu'au bout, on va avoir besoin un jour ou l'autre d'avancer sans savoir ce qui va se passer. De persévérer en faisant confiance que Dieu va être notre délivrance. Qu'on va même avancer puis on ne saura pas c'est quand le dernier pas qu'on va avoir besoin de faire et comment Dieu va nous en délivrer. Et parfois, il y a des gens qui abandonnent. Qui abandonnent parce qu'ils ne voient pas la fin. Mais la fin n'est pas encore arrivée. Mais il y a cette idée-là que si on veut aller jusqu'au bout, on va avoir besoin de persévérer même si on ne connaît pas la fin de l'histoire. Et ça, c'est la beauté. Parce qu'après ça, quand on a traversé de l'autre côté, puis quand on a vu Dieu intervenir, c'est souvent à ce moment-là qu'on prend un pas de recul puis on regarde tout le chemin parcouru. Ce qu'on fait quand on lit la Bible, d'ailleurs, on regarde le chemin parcouru puis on dit, « Wow, Seigneur, tu as été là à chaque moment. Tu as été là quand on était en Égypte. Tu as été là pour diriger Moïse. Tu as été là pour convaincre Pharaon de nous laisser partir. » Mais tu as même été là jusqu'au point d'endurcir le cœur de Pharaon pour qu'il nous suive dans l'eau. Puis non seulement ça, tu nous as permis de traverser, puis tu les as empêchés de venir nous rejoindre, de nous tuer. Et non seulement ça, tu as fait tomber la mer sur nos ennemis, et puis nous, on a été de l'autre bord, puis on a été, wow, on a vécu tout ça. Vous savez qu'on n'a jamais ce pas de recul-là quand on est directement dans notre épreuve? Hein? On voit pas ça, hein? Mais la persévérance nous donne cette conviction-là qu'un jour, on va regarder en arrière et on va faire « Ah, c'était toi, ce Seigneur. Ah, cette coïncidence-là, c'était toi. Ah, ce chemin-là, c'était vraiment toi. Ah, ce moment-là, wow! J'avais pas vu ça de même, mais Seigneur, tu as fait en sorte que tout arrive au bon moment. Même si c'était tough, puis même s'il y avait des ennemis, puis même s'il y avait de la barbe, puis bavé qui était menaçant avec des armes, tu étais là. » Ils ont tous été baptisés dans ce chemin de la mer. On ne connaît pas la durée de nos épreuves, frères et sœurs. Hein? On ne connaît pas tous les détails, mais on peut faire confiance à Dieu qui combat pour nous. 1 Corinthiens 10, verset 12, va dire « Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. » Vous pouvez avoir vu tous les miracles possibles et inimaginables. Que celui qui se croit debout fasse attention de ne pas tomber. Jésus va le dire de façon différente. Il va dire, restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Et ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui résonne dans votre cœur. Peut-être c'est une partie, peut-être c'est une autre. Mais j'aimerais pas qu'on puisse prendre un temps pour juste s'arrêter et juste se poser cette question-là. Est-ce que moi, je me penses-tu debout, là? Je suis-tu au-dessus de mes affaires, là? Je suis-tu orgueilleux au point de penser que parce que je viens à l'Église depuis 20 ans, ces choses-là, ben voyons donc, c'est pour les autres, ça, c'est pour les nouveaux chrétiens. C'est-tu parce que je prends la communion que tout d'un coup, ma vie va être parfaite? Et peut-être qu'on peut s'interroger à savoir à quel point est-ce que je suis vigilant? À quel point est-ce que je suis persévérant dans ma vigilance? Et des fois, il y a des gens qui viennent me voir qui disent « Hey! » Pasteur, comment ça? Il y a des pasteurs qui tombent, qui chutent, qui font toutes sortes d'affaires. Que celui qui se croit debout ne prenne garde de tomber. Que celui qui se pense plus fort que les autres Fasse bien attention. L'orgueil précède la chute. Mais le début de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est justement de reconnaître que c'est lui qui est le centre de l'histoire. Et moi, ma job, c'est de le suivre lui. C'est pas de dire « Hey, suis-moi Jésus, on va faire de quoi ensemble, nous autres. » Non, c'est de le suivre lui. Et j'aimerais qu'on puisse prier ensemble que Dieu nous donne vigilance et prudence. Et qu'il nous donne aussi cette joie-là, hein? Cette joie-là de lui appartenir, cette joie-là d'être dans sa famille. Peut-être que certains ont besoin de ranimer la soif de Dieu, la soif de boire les paroles de Jésus, de lire, de manger, là, on est en image, là, de manger les paroles que Dieu nous a données. Peut-être qu'il y en a qui ont besoin de ranimer l'importance de discerner la volonté de Dieu. Peut-être que d'autres ont besoin de comprendre cette importance-là de persévérer dans l'épreuve. Puis peut-être que ça fait longtemps que vous êtes dedans, mais il y a une richesse à persévérer. Est-ce qu'on peut juste se recueillir, juste quelques temps? On veut juste prier, puis on veut juste laisser Dieu parler à nos cœurs à travers tout ça, puis pas juste entendre des paroles, mais juste se concentrer, puis « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne? Qu'est-ce que tu veux que je mette en pratique ce matin? » Oh Jésus, merci Seigneur. Merci Seigneur. Même à la maison, j'encourage à faire ça également.